Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le podcast de la CGT FAPT 67. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre.
Salut.
Nous sommes aussi, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Madeleine Bignier, qui est une camarade, qui est sœur ouvrière. Donc si vous avez eu déjà peut-être l'occasion d'écouter sur le podcast l'épisode où nous avons rencontré Albert Mann, un camarade prêtre ouvrier. Donc c'est un petit peu le deuxième volet de cette série consacrée à ce type d'engagement très particulier, puisque déjà les prêtres ouvriers, on n'en parle pas forcément matin, midi et soir. Beaucoup de gens ne connaissent même pas l'existence de cet engagement militant. Et l'engagement des sœurs ouvrières, c'est encore pire au niveau de la médiatisation, hein, puisqu'on en parle encore moins, puisque moi-même, je ne savais pas que ça existait. Et c'est fortuitement que j'ai croisé Marie-Madeleine à un repas de l'Union syndicale des retraités CGT. Et c'est là qu'on a commencé à discuter. Et donc, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on interviewe Marie-Madeleine sur son engagement. Est-ce que tu peux nous dire au départ, parce que moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, comment on fait pour s'engager dans un couvent ? On arrive, on sonne à la porte, et comment on fait ?
Ma foi, il faut que je reprenne quand même le terme de sœur ouvrière. On nous a appelé, vous nous appelez, sœur ouvrière. De fait, nous n'avons jamais été, en ce qui me concerne, ouvrière à l'usine. Nous étions un certain nombre de copines, de frangines, comme on dit facilement, à être au travail. Donc, nous étions considérées comme les sœurs au travail. Ceci par opposition, c'est pas bon de dire ça comme ça, en complémentarité, d'une manière différente, nous avons vécu notre engagement, non pas dans une structure institutionnelle de congrégation, mais nous étions engagés, comme tout un chacun, dans des structures, dans des usines aussi, dans des établissements qui ne relevaient pas de congrégation religieuse. Ça, c'est une nuance qu'il nous faut bien prendre en compte pour qu'on parle le même langage. Donc, il ne s'agit pas avant tout de sœurs en usine, je n'y étais jamais, mais par contre, j'étais donc une religieuse, c'est encore autre chose, une autre manière d'exprimer l'engagement, religieuse au travail. Voilà, cette première précision, je tenais à la donner. Comment fait-on pour entrer en congrégation ? Écoutez, il n'y a pas de recette toute faite, ça n'existe pas. Si je vous disais comment avez-vous fait pour rencontrer votre dulciné, ma foi, ce sera encore une réponse bien différenciée pour tout un chacun. Alors, il faut savoir que je suis née en 1943. Ça fait déjà quelques paires d'années. Je vais bientôt avoir mes 80 ans. À l'époque, l'école en Alsace était tenue par les sœurs. Il y avait les sœurs de Saint-Jean-de-Bassel et les sœurs de Ribeauvillet qui se partageaient en quelque sorte les écoles en Alsace. Leur employeur, on ne savait jamais trop qui c'était, l'académie, la commune, on ne savait pas trop. Et pour arriver à avoir un diplôme qui permettait d'enseigner, ma foi, il fallait suivre des études. Or, à l'époque, le système scolaire n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. On allait à l'école primaire du village et pouvait aller suivre des études, 6e, 5e, 4e, etc., uniquement les fils ou les filles à papa. Ce qui fait qu'à Horfelden, où je suis née, à l'impasse de l'enfer, j'aime bien le dire.
C'est cocasse.
Impasse de l'enfer, oui. Ma foi, il y avait deux filles, dont les parents étaient des restaurateurs, et bien sûr, il y avait les enfants de la brasserie Météore. dont le père était le directeur ou bien avait un poste important à la brasserie. Ça se limitait à cela. Si donc, moi je voulais toujours être ou institutrice ou sœur. Et je me suis dit, si je vais être sœur, je serai aussi institutrice en même temps, donc j'y vais. J'étais une fillette bien travailleuse, j'avais toujours des bons résultats scolaires, j'étais aussi pieuse, n'est-ce pas ? J'allais souvent à la messe, j'étais proche des religieuses, des sœurs, et donc pour les religieuses, les sœurs à l'époque, cela suffisait pour nous embarquer, je dis bien ça comme ça, pour nous embarquer à Isenheim, près de Guebwiller, qui était ce qu'on appelle le juvénat, apprenti bonne sœur. Mais ça, c'est mon vocabulaire. Au juvénat, et là, on suivait des études 6e, 5e, 4e, à un prix dérisoire.
Raisonnable.
Disons, raisonnable, dérisoire. Et à partir de la 3e, nous sommes allés à Ribeauvillé, et la congrégation avait en son temps son école normale privée, donc uniquement pour les apprentis bonnes sœurs. J'ai donc suivi cette filière qui, à l'époque, était une filière classique, normale. Bon, en cours de route, il y a des copines qui sont parties, hein, qui ont lâché parce que ce n'était pas du tout leur optique. Quoi. Mais ma foi, moi, je suis restée. La preuve, j'y suis encore aujourd'hui, sans habiter à Ribeauvillé. J'ai donc suivi les études, j'ai fait sciences ex, la 4e année d'école normale. J'ai fait un mémoire sur la brasserie Météor, qui me tenait à cœur, parce que papa, il disait toujours, et je boirai Météor jusqu'à la mort. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Et donc, après ça, c'est enchaîné le noviciat. Donc, c'était une année où on ne sortait pas du couvent. On a fait des études des textes sacrés, des études de la règle de vie. On appelle ça règle de vie, n'est-ce pas, ce qui régit un petit peu, enfin, je n'ai pas le droit de dire ça comme ça, mais qui régit la vie des sœurs engagées en congrégation. Après une année de noviciat, eh ben, je me suis engagée pour des vœux temporaires. Mais je voulais vous dire encore autre chose qui est très important, et c'est de là que je tiens ma tripe ouvrière. Mon père était donc ouvrier de brasserie, et puis maman, elle venait du rural. Et je me souviens, quand j'avais 10 ans, donc j'étais encore jeune, mais je m'en souviens comme si c'était hier, maman est partie à Strasbourg. Elle a dit, il faut que j'aille sur place à la sécurité sociale parce que monsieur Schnepp, qui était facteur, était passible d'un licenciement non justifié. Et puis rien n'y a fait. Et maman est donc allée à Strasbourg. Elle nous a raconté ça quand elle est rentrée. Et en rentrant, elle a dit, en se descendant du train, je ne rentre pas tout de suite, je veux aller voir monsieur Schnepp, il faut que je lui dise le résultat. Et le résultat était, elle a obtenu l'annulation du licenciement de monsieur Schnepp. Ça m'a marqué profondément, et je crois, j'y pense encore aujourd'hui, je vous dis, comme s'il était hier. Je reviens à mon histoire d'engagement dans la vie religieuse. J'ai donc fait pendant 3 ans, à l'époque c'était comme ça, année par année, un vœu pour 1 an. Et en principe, après 3 ans de vœux temporaires, on faisait des vœux pour 3 ans. Seulement, à ce moment-là, il y a eu le Concile Vatican II, dans lequel je me retrouve très bien et encore aujourd'hui. Parce que n'oublions pas que le Concile Vatican II nous dit « ce qui est pleinement humain est déjà divin ». Donc, l'action syndicale qui vise respect, dignité, justice, dans la mesure où c'est pleinement humain, c'est déjà divin. Ça, on n'a pas besoin de le publier comme ça aux militants. Mais moi, en tant que femme engagée dans la vie religieuse, dans l'option monde ouvrier, ça fait partie des fondements de mon engagement. Et c'est moi qui fais le lien avec le Seigneur. Mmh. Hein. C'est lui qui m'a saisi, comme il a saisi la Marie-Madeleine au matin de Pâques, dans l'Évangile. Souvent on dit c'est celle qui a beaucoup péché. Je dis non, non, c'est celle qui a beaucoup aimé. Il ne faut pas l'oublier. Et quand Jésus l'a rencontrée, Jésus lui a dit, ah non, maintenant tu ne me retiens pas. Va-t'en, va annoncer aux autres que je suis ressuscité, que je suis la vie. Je pense qu'un militant qui comprend bien son engagement ne milite pas pour soi-même, mais milite pour un ensemble. Et donc, ça rejoint tout à fait la mission que Jésus a confiée à Marie-Madeleine et à beaucoup d'autres, entre autres à Saint-Pierre. Voilà. Il fallait que je le dise.
Tu disais que tu as fait ta thèse sur Météor, c'est ça ?
Oui.
J'ai du mal à imaginer une école qui était une école religieuse, si j'ai bien
compris. Tout à fait.
Ouais, ouais. Et qui, du coup, laisse quand même la place à toute une thèse, du coup, sur le monde ouvrier. C'était rare ce type de sujet de thèse ?
Oui, mais...
Parce que j'aurais tendance à penser que, voilà, c'est des thèses plus philosophiques ou spirituelles ou autres. Et que tu fasses une thèse sur la brasserie Météor du coin, c'est déjà un rapport au monde ouvrier d'à côté, déjà assez important, déjà jeune.
Mais tout à fait.
Ouais.
Je dis bien que...
Et c'est parce que ton père était aussi, je pense...
Mais je pense que ça colle à ce que je suis. Hein. Mmh. Et ça, c'est de... J'ai dit tout à l'heure que mon père était ouvrier. Maman, bon, elle a défendu le facteur. Mais ça, c'est... Les racines, je les trouve là. Et je n'ai jamais coupé les racines. Il ne faut pas les couper les racines. Autrement, on ne vit plus. Et je fais toujours, et avec beaucoup de cœur, je fais toujours référence à ces racines qui sont les miennes. Hein. Chacun a les siennes, mais les miennes, elles sont là. Je ne vais pas les renier. Entrer dans la vie religieuse, ça ne veut pas dire couper ses racines. Et c'est parce que la vie religieuse me permet de vivre pleinement, en continuité avec ses racines, c'est une démarche de foi. Je ne veux pas qu'on la copie, mais pour moi, ce sont les fondements même de mon existence et de cette route que je vis avec d'autres là où je suis. Je ne suis pas une religieuse moniale, contemplative, mais je suis une religieuse engagée sur le terrain, sur les routes humaines. Et c'est là que je rencontre Jésus-Christ. Maintenant, vous allez me demander comment. Ça ne se démontre pas de façon mathématique. Mais lorsque je rencontre une personne qui est ouverte, un acte positif, qui émane. L'autre jour, j'ai vu un SDF avec une jeune. Ils étaient amoureux tous les deux. Mais je dis, mais Seigneur, mais c'est magnifique. Et pour moi, le soir, sur l'oreiller, je parle de tout cela. Je parle à celui qui, un jour, a irradié, est entré dans ma vie. Je ne sais pas comment vous réagissez à tout cela, mais finalement, il n'y a pas à réagir. Hein. C'est ce que je vis.
On écoute religieusement. On écoute religieusement.
Religieusement, mais oui, c'est le cas de le dire. Hein.
Je voulais juste revenir donc dans le déroulé donc de ton parcours. Tu aurais pu, donc, comme tu l'as dit, devenir une sœur... qui reste dans le couvent et ce qu'on a l'habitude nous d'imaginer quand on pense à une sœur ou à un moine. Or toi tu fais un choix d'aller travailler.
Oui.
Pourquoi tu fais ce choix là alors
Oui. Il faut qu'on se mette bien d'accord il y a les religieuses contemplatives, qui sont les moniales, les carmélites, par exemple, qui sont, comme il y en a à Marienthal. Il y a les sœurs cloîtrées, qu'on dit communément, et il y a les religieuses, les sœurs de mission apostolique. Et les sœurs de mission apostolique travaillent, mais très souvent, elles ont, encore aujourd'hui, elles ont travaillé dans des institutions d'église, hein, qui relevaient de la congrégation, ou alors les écoles des villages.
Ouais, des dispensaires.
Des dispensaires, des hôpitaux. Encore que les hôpitaux, c'est déjà du public. Hein. Mais il faut distinguer les deux types, hein, les religieuses contemplatives et celles de vie apostolique. Ribeauvillé est une congrégation de vie apostolique, donc au travail, mais d'une certaine manière, hein, comme je l'ai défini tout à l'heure. Tandis que moi-même et d'autres, bon, on n'est pas majoritaire, hein, nous avons opté pour un travail au cœur des masses. Hein. Donc, les différents employeurs que j'ai eus n'étaient pas une congrégation religieuse. J'étais mêlée à tout un chacun, et ce qui m'a fait épouser, oui, c'est en continuité de ce que j'ai raconté tout à l'heure, ça m'a fait épouser les conditions de vie des travailleurs. Mmh. C'est aussi ce qui m'a amené très rapidement à adhérer à une organisation ouvrière. À l'époque, c'était la CFDT, et petit à petit, il y a eu, quand j'étais ailleurs, parce que j'ai eu 10 employeurs différents, quand j'étais ailleurs, nous avons fait une intersyndicale CFDT-CGT. Quand j'étais retraitée, ben, ma foi, d'abord, alors je suis passée par l'étape cadre. Hein, et puis, quand j'ai logé, j'ai toujours logé comme tout un chacun. Et ben, à ce moment-là, j'ai adhéré à la CNL et j'étais toujours moteur. Pas seul avec d'autres, mais n'empêche que ça reposait beaucoup sur mon engagement à moi. Est-ce que j'ai répondu ?
Oui, et tu as travaillé dans quel secteur ?
J'ai travaillé dans le secteur sanitaire et social. Je vais vous expliquer aussi, mais je n'ai pas tout à fait terminé. Donc, j'ai pris mon engagement définitif, l'engagement définitif, après 8 années d'engagement temporaire, parce que le concile autorisait jusqu'à 9 ans. Et après 8 années, je me suis dit, maintenant, il faut quand même que tu y ailles. Et à l'époque, j'étais à Wittelsheim, donc le secteur des mines de potasse. C'était la période où il y avait une grève extrêmement difficile. Et j'étais de cœur, enfin, tout ce que j'ai pu faire avec les mineurs. Et j'ai fait l'engagement définitif, non pas dans une église, mais dans un sous-sol d'église. Avec les copains mineurs,
de la mine, ouais.
Les gens du terrain.
Ouais.
Voilà. Maintenant, je reviens à... Attends, tu m'as demandé quoi
Quel était ton poste de travail, quoi?
Poste de travail. Donc, oui, en 65, après le premier engagement, il est évident que j'ai pris le même chemin que toutes les frangines, toutes les sœurs. Et j'ai donc été enseignante à Gamsheim durant 5 ans. De 65 à 70. Durant les temps de loisirs, j'étais avec les âmes vaillantes et les cœurs vaillants. J'étais la première sœur à s'occuper des garçons. Et donc, nous avons les temps de loisirs, c'était ça. Hein.
C'était quoi, des scouts ?
Cœurs vaillants, âmes vaillantes. C'est l'action catholique de l'enfance, des enfants.
D'accord.
Et là, il y avait 3 milieux indépendants, milieu rural et milieu ouvrier. Donc, déjà à ce moment-là, il y avait l'option monde ouvrier. Et puis, au courant de la 5e année, j'ai suivi, il fallait avancer, j'ai suivi à la fac théologie, Strasbourg, la formation du CAPER, le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement religieux. Lequel CAP permettait d'aller travailler dans les établissements publics. À l'époque, c'était les CES, Collèges d'enseignement secondaire, nationalisés. J'ai donc réussi, bien sûr. Et
ça va sans dire. Ça va sans dire.
Bon, tout de suite, la congrégation. J'ai écrit à la congrégation, j'ai dit, écoutez, je vais réussir, je vais avoir un diplôme, je ne vais pas le mettre dans un tiroir. S'il y a un poste à pourvoir quelque part, je dis OK. Par retour du courrier, les chefs TEN m'ont remercié de me proposer comme ça. Et puis, aussi sec, il y a un poste dans les mines de potasse, il sera très dur, comme à toi de voir. Je dis, ben, dur ou pas dur, ben, j'y vais. Et j'y suis allée. Donc, de 70 à 73, trois années, j'avais un statut de maître auxiliaire au CES, Charles Mermoz, et après Charles Péguy, parce qu'il y a eu des transformations, il y a eu des gens, enfin bref, on ne va pas entrer dans ces détails-là. J'étais donc là-dedans, comme tout le monde, mais vraiment comme tout le monde. J'avais un collègue communiste, un collègue, des collègues de tout genre. Et puis je faisais vraiment corps avec tout ce monde. On a vécu des choses extraordinaires, mais je crois que je ne vais pas m'étaler parce que ça va être beaucoup trop long. Hein. Il y a Raymond, bon, il est déjà décédé, paix à son âme. Il me disait toujours, t'as pas peur que mon sang est trop rouge ? Je dis, arrête-toi. Ben, voir exemple. Hein. Et c'est lui qui a donné du sang pour un copain qui devait se faire opérer à cœur ouvert à Nancy. J'ai mis en route, j'ai travaillé avec le mouvement des cadres chrétiens. Hein. C'était pas rien non plus. Avec les gens de la PEPA, hein, c'était donc les parents d'élèves. Enfin, avec les copains des mines, quoi, avec Julot et tous les autres. Il y avait beaucoup de Polonais aussi, hein, donc c'était vraiment... Je vivais le quartier des crapules, le quartier rouge. Quand on est allé au camion pour chercher le pain, il y a une habitante, Mme Genspidel, qui me dit « Mais vous savez que vous êtes dans le quartier des crapules ?» Je dis « Ben ça, ça fait rien, alors moi je suis crapule avec vous. » Et puis voilà.
C'est carrément, ils appelaient ça le quartier des crapules.
Oui, oui, quartier Olemel, quartier des crapules, c'était dur. Hein. Mm-hmm. Et puis ce qui était extraordinaire, quand il y avait un conseil de classe, souvent le principal se tournait vers moi pour que je puisse donner un avis et parler des conditions de vie des enfants, des élèves. J'ai trouvé ça, c'était formidable. Et tout le monde écoutait. Quand je leur parlais de la voisine, des voisines qui s'injuriaient dans les chiottes, hein, parce que ça portait bien, ben, ils étaient... Ah, et ben, je dis, mais ne vous étonnez pas qu'ils ne fassent pas leur devoir le soir. C'est impossible dans certaines familles où les conditions sont incroyables. Hossine, sa femme a accouché, ils attendaient ce bébé. Il me dit, en pleurant, oui, le bébé est là, mais nous n'avons pas de lait pour lui. C'était les grèves. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Eh ben, j'en ai parlé à la Madeleine, là. Cadre chrétien, son mari était ingénieur. Eh ben, le soir même, elle avait une réunion avec les cadres sur Mulhouse. Le lendemain, elle s'est rappliquée, elle m'a apporté du lait pour le bébé. Et ils ont fait une collecte. Donc, là aussi, être du montre ouvrier ne veut pas dire être replié sur soi-même, mais garder le regard grand ouvert. Hein, le jour où, à la dernière heure, il ne demandera pas qu'est-ce que tu as fait, et puis, as-tu été copain avec lui ? Il te demandera, as-tu aimé ? Hein ? Alors, il faut aimer dans les actes, hein. Il ne faut pas rester dans les bulles.
Puis ça résonne un peu avec l'actualité, puisqu'on est en pleine séquence des émeutes.
Oui.
Des quartiers, donc ça montre que ça fait quand même un moment qu'il y a des quartiers ou des cités qui sont pourries de précarité, de misère et d'exclusion, puisque en fait, il n'y a rien qui change, quoi. Donc ce que tu expliques là, c'était à Wittelsheim,
oui.
C'est ça ?
D'accord.
Oui. Quand tu parles de la vie ouvrière, ça me fait un peu penser à ce que nous disait Alberman, du coup, parce que c'est un petit peu similaire. Est-ce que, comme lui, tu t'étais mis comme... C'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Est-ce que tu t'étais mis comme consigne de pas, justement, faire trop de prosélytisme par rapport à la religion, par rapport à tout ça. Est-ce que d'une part, tu étais quand même... Parce que moi, c'est un peu ça qui m'intéressait avec Alberman, mais aussi, du coup, aussi, évidemment, là. C'est de voir aussi s'il y avait un but... On dit, en t'écoutant, on dirait presque que c'est quelque chose de personnel, qui est juste bon pour toi et pas nécessairement bon pour l'officine religieuse ou des choses comme ça. Est-ce que voilà, tu t'étais mis un but de dire, on va essayer de prêcher la bonne parole en gros dans les bureaux, dans les entreprises, ou c'était quelque chose juste de, comme tu disais, pour être ouvert aux autres et faire en sorte que les gens s'ouvrent le plus possible?
Ce n'était pas du tout dans le but d'un prosélytisme, pas du tout. Ce n'était pas pour aller convertir les autres.
Oui, justement, on comprend bien ça quand on t'écoute, c'est pour ça que c'est intéressant.
Ça n'a jamais été ça. Je n'ai pas à convertir l'autre. Chacun a le droit de vivre comme il est. Mais il s'agissait pour moi, et encore aujourd'hui, d'une démarche de foi. Et comme je dis bien, il est difficile d'exprimer tout cela parce que la démarche de foi profonde, réelle, ne s'enferme pas dans des mots. L'amour ne s'enferme pas dans des mots, c'est autre chose. Le définir, il faut prendre un petit Robert pour voir ce qu'il dit, pour que tout le monde se mette d'accord. C'est pourquoi j'ai trouvé essentiel de définir ce que nous entendons par sœur ouvrière, sœur au travail. Hein. C'est fondamental que tout le monde porte le même langage. Je ne fuis pas la question. Ma démarche est fondée, donc sur une démarche de foi, sur la démarche de Jésus-Christ lui-même, le Fils du Père, qui a vécu l'incarnation. C'est-à-dire... nous on dit le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Jésus, lui, il est né dans une grotte. Il a vécu pendant 30 ans les conditions de travail de Joseph. Il a certainement été menuisier comme Joseph. Il a sillonné les routes de la Galilée. Il a rencontré des pêcheurs, des travailleurs donc. Il en a aussi un qui s'est occupé du fric. Hein. Zachée, il lui a dit « Descends vite de ton arbre. Je viens loger chez toi. » Il n'a pas dit « Viens vers moi. » Il a dit « Je viens vers toi. » Donc, nous aussi, nous sommes des humains. Nous avons à aller vers les autres et ne pas attendre qu'ils viennent vers nous. En Alsacien, on dirait « Ich bin's, c'est moi. » Venez vers moi. D'où ma démarche de vivre avec les gens, de vivre les mêmes conditions qu'eux. Bien entendu, j'ai la chance d'avoir eu un certain nombre de formations. Ce n'est pas pour moi, ces formations, mais c'est pour que tout le monde puisse en bénéficier, pour que ensemble nous puissions aller vers le Père, d'une manière consciente ou inconsciente. L'abbé Pierre, il dit, il faut se sauver ensemble. Alors qu'est-ce qu'il nous dirait, le bon Dieu, si nous arrivions les uns sans les autres? C'est l'abbé Pierre.
Alors, dans tout ce parcours de vie, j'avais moi ce qui me passait par la tête, c'était de me dire, mais à quel moment tu décides de t'engager syndicalement? Quel est le déclic?
Ok. Donc, j'ai demandé à la congrégation de pouvoir faire une formation d'éducatrice spécialisée en cours d'emploi. Parce que je consacrais beaucoup de temps dans le quartier. Et ça a pris le dessus par rapport à l'engagement scolaire, hein, l'enseignement religieux. Alors, pour moi, c'était une question de justice. Je me disais, je suis payée par, le, par le CES, et finalement, je donne plus de temps pour tout le reste. Et donc, j'ai fait la demande en précisant au cheftain, une fille du monde ouvrier à 30 ans ne peut pas se payer 3 ans d'études. Je demande en conséquence la possibilité de faire une formation en cours d'emploi. Ok, j'ai eu le feu vert. Il s'agissait donc de trouver une école et un employeur. Parce que c'était donc un contrat tripartite. Et moi, bien sûr. Et bon, par une personne bien intentionnée, j'ai abouti à la maison Les Cyprès, le bon pasteur d'Angers à Mulhouse-Modenheim, embauché donc au mois de septembre. J'avais un groupe de filles, c'était particulier, croyez-le moi. Et en décembre, j'ai demandé la signature du contrat tripartite. C'est-il pas que je reçois un courrier, une petite lettre, un bout de papier, sur lequel, ben ma foi, on m'a indiqué le licenciement à partir du 31 décembre. Oh, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai pris contact avec un copain de la CFDT là-bas, donc sur Mulhouse-Modenheim, et je suis allée voir la directrice de l'établissement, laquelle était à l'époque donc une religieuse du bon pasteur d'Angers. L'établissement n'existe plus, hein. Alors on discute, ah non, pas question. J'ai dit, mais il aurait quand même fallu me prévenir dès le mois de septembre et ne pas attendre décembre, et puis me donner aussi le temps nécessaire pour trouver un autre employeur. Mmh. Elle n'a pas dérogé, rien du tout. Alors je dis, ben écoutez, sœur Albine, moi je vais faire appel au syndicat. Hein. Oh, plutôt le diable dans la maison que le syndicat. On va revoir notre position. Et je suis partie. Et ça n'a pas loupé le lendemain ou le surlendemain. J'ai eu un nouveau petit courrier qui m'a demandé de revenir aussitôt au bon pasteur reprendre le travail. Oh, je me suis dit, elle m'a fait poireauter, mais je vais aussi attendre le lendemain pour y aller. Après tout, hein, j'avais des choses de prévu, point. Je suis repris le boulot. Et c'est comme ça que j'ai adhéré à la CFDT à partir de cet incident. Et puis j'avais tout de suite des collègues de travail qui ont adhéré avec moi. Parce que ben, on sentait que ça brûle. Hein. Pas les voitures, mais la boutique. Donc, mais j'ai été reprise d'une façon bien particulière. Je n'avais plus le droit de rencontrer les autres collègues de travail. Je montais dans le groupe qui n'était constitué que de 3 filles. Celui que j'avais avant, plus question d'y aller parce que j'aurais rencontré les autres. Je suis montée dans le groupe par un escalier de secours, en colimaçon, escalier de secours. Elle m'avait collé le maximum de veille de nuit, mais ça se limitait à quoi ? Ça se limitait à dormir dans une petite piole à côté du groupe. De toute façon, j'avais rien à faire, mais elle pouvait comptabiliser 3 heures de travail. Hein? Donc, elle réduisait mon temps de présence dans l'établissement. Et j'ai vécu ça jusqu'au 30 juin. Elle m'a donc fait un contrat de janvier à juin pour que je puisse trouver un autre employeur. Quant à l'école, elle ne voulait absolument pas travailler avec Strasbourg parce que Strasbourg, n'est-ce pas, il y a une coloration politique. Hein? Je ne veux pas que vous alliez à Strasbourg. Et donc, j'étais inscrite à l'école à Nancy. Voyez le déroulement. C'est comme ça que je suis partie en Meurthe-et-Moselle. C'est pas un mal. Alors donc, ça y est, j'ai vécu ces 6 mois d'une façon exécrable, mais je les ai vécus. Le formateur de l'école est venu parce qu'il fallait valider la première année de formation. Et puis le 30 juin, c'était terminé. Et donc, il fallait de nouveau un employeur. Alors, par l'intermédiaire de l'école, j'avais un nouvel employeur à Grenelbruch. J'ai travaillé le mois de juillet là-bas, avec des conditions pas plus faciles. C'était un institut médico-éducatif, IMP. Et puis la cuisinière m'a dit, vous savez, mademoiselle Marie-Madeleine, ici c'est le Struthof. Ah bon, là j'ai observé. La veilleuse de nuit devait cirer les chaussures de tous les enfants de l'établissement. Madame Raoul, la directrice, qu'elle repose en paix, hein, la chef, hein, elle était installée dans une véranda et elle communiquait avec le personnel par haut-parleur. Que tout le monde entendait les messages. Quand on cueillait des myrtilles, la portion de tarte était proportionnelle au nombre de myrtilles cueillies par les petites qui étaient... Il y avait une fille qui était autiste, c'était terrible. Enfin bref. Et c'est IPA que vers la fin juillet, je ne sais plus trop, le formateur de l'école me contacte pour me proposer un poste dans son établissement au centre régional d'observation à Rosières-aux-Salines. J'en ai parlé au chef Ten. Puisque le conseil était d'accord en son temps, eh ben, il sera encore d'accord aujourd'hui. Et comme ça, vous voyez, parce qu'il faut toujours faire les choses en négociation avec la congrégation. Hein, je peux pas, je n'avance pas toute seule. Ouais. Toute seule. Et donc, c'est comme ça que je suis partie en Meurthe-et-Moselle. J'avais une petite chambre dans l'établissement. Et puis là, bon, ben, j'ai continué à vibrer avec la CGT. Avec la CFDT, pardon, la CFDT. Et je me souviens, là, j'ai encore le tract qu'on a envoyé, le tract de soutien pour 9 militants de la CGT qui avaient été incarcérés, arrêtés par la police dans leurs locaux syndicaux. Et on avait une grande manif sur Strasbourg, et sur Nancy. Bon, je mélange les pédales. Sur Nancy, et puis c'est la première fois que j'ai porté une pancarte. Je me souviens encore très bien. Je l'ai montée un peu assez haut pour qu'on ne voit pas trop ma figure, pour que ceux qui regardent la télé n'arrivent pas à me repérer.
Ça se fait encore, rassure-toi.
N'empêche que j'ai réussi à mobiliser la psychologue, l'assistante sociale, enfin nous étions une bonne poignée à participer à cette manif. C'était bien.
Et ça, c'était quelle année, ça?
En 1900... Attends, j'avais tout à l'heure le papier. Ça devait être en 19... Oh, dans les années 1980... 76, 77. Ah ouais. J'ai le tract, mais ça va faire du bruit dans le micro.
C'est juste pour dire que, puisque on sort du mouvement des retraites, il y a eu énormément de répression antisyndicale.
Oui.
Ah, c'était juste pour dire que déjà en 76.
Mais bien sûr,
il y avait,
il y avait la répression, oui.
Dans les locaux. Déjà des flics qui allaient arrêter les militants syndicaux carrément dans le local.
Tout à fait. Écoute, j'ai là le tract, mais maintenant je ne vais pas le chercher.
Oui, non, mais voilà.
C'était 75-76 par là.
D'accord. Ouais. Et donc ton militantisme CFDT, ça consistait en quoi alors?
Ben, je participais à la formation syndicale. Je participais à plusieurs sessions à Tantonville avec les dirigeants, enfin de la CFDT. Et puis quand il y avait des manifs, bon, j'y allais. Je collectais les cotisations. Autant que je pouvais. Parce que, attends, j'étais toute jeunette dans cet établissement. Et puis, alors, j'ai réussi. Donc, c'était en cours d'emploi. Et puis, il m'avait donné un groupe qui était particulièrement difficile. Avec un collègue qui était scout. Vous savez, souvent on dit, en caricaturant, le scout, toujours prêt, mais jamais là. C'était un peu ça. Ah oui,
Non, très bien, très bien.
C'était un peu ça. Enfin bref, donc c'était un groupe très dur, très difficile. Et puis bon, alors j'ai réussi, j'ai bien réussi, faut-il le dire. J'étais deuxième sur 225 candidats. Et puis je pense que mes collègues hommes, masculins, ils ne devaient pas trop aimer ça. Et c'est la dernière année, j'ai donc été 4 ans là-bas, fut extrêmement difficile que j'ai dû penser à donner ma démission. J'ai donc donné ma démission et j'ai été embauchée à la maison d'enfants de Méon à Lunéville, où le directeur m'a dit, enfin si vous acceptez le groupe des préadolescentes adolescentes, ça m'ôterait une épine du pied. J'ai dit, ben oui, ok, ça ne me fait pas peur. Et j'ai donc pris ce groupe. Et alors là, à Méhan, l'action syndicale a vraiment pris une densité forte. Et en face du même établissement, il y avait les terrasses de Méhan, et les deux établissements avaient la même grande direction qui est l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle. Et donc, nous avions des revendications communes que nous avons acheminées à l'OHS, l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle. Il y a par exemple la prise en compte des veilles des gardes de nuit, parce que là, c'était vraiment, c'était du boulot. La prise en compte du travail les jours fériés. Enfin, toute une liste de revendications qui ont abouti. Hein, elles ont abouti. Alors, évidemment, bon, nous avons réussi à ce qu'il y ait un comité d'entreprise intersyndical. Donc, ça a été CFDT et CGT. Il y avait les délégués du personnel dans les deux établissements. Et à la maison d'enfants, nous avons obtenu qu'un copain, un camarade de la CGT, puisse participer aux réunions à la maison d'enfants. Ça, c'était pas rien. Parce que ça nous a fortifié. L'union fait la force. Et donc, on a bossé. On a bossé dans ce sens. Et finalement, il y a eu des acquis qui demeurent encore aujourd'hui. Alors, je suis devenue évidemment la bête noire. Et comment ? Il y a eu une répression, un harcèlement organisé par le directeur. Il a organisé des repas avec tous les autres collègues. Et puis Annie, la copine de la CFDT, moi je voulais qu'elle soit la déléguée syndicale, moi je ne voulais pas paraître comme ça. Et puis elle l'aimait bien, donc Annie y allait. Elle venait de Longwy, hein, donc elle baignait dans toutes les actions. Et puis moi je faisais, je donnais pour les comptes rendus, pour ce qu'il y avait lieu de faire. Disons, j'étais un peu... Il y a des éducateurs qui m'ont appelé la tête pensante, donc ben, j'étais la tête pensante, si on veut, en lien avec tous les autres. J'étais toujours aussi avec les collègues de l'Action catholique ouvrière, intersyndicale, bien entendu. Et en fin d'année, il y a toujours une réunion avec l'ensemble des éducateurs et le directeur pour faire en quelque sorte un bilan de l'année et se projeter vers l'avenir. C'est-il pas que le père recouvreur, monsieur recouvreur, a fait dire à chaque éducateur qu'il ne voulait pas travailler avec Marie-Madeleine. J'étais assise là, comme le beurre au soleil, mais je ne suis pas fondue. Je n'ai pas fondue. Tout le monde a dit qu'il ne veut pas travailler avec moi, à tour de rôle, sauf un, Philippe, qui lui dit « Ce que vous venez de faire à l'encontre de Marie-Madeleine est absolument, je ne sais plus le dernier mot, enfin dégueulasse, ça voulait dire, hein, mais il n'a pas dit dégueulasse, parce qu'il ne pouvait pas dans le cadre de la réunion. » Et moi, j'étais là. Je me suis dit « Mais qu'est-ce, comment vais-je réagir ?» Mais surtout pas au moment même. Ah, je n'ai pas pipé, pas mot. Et j'ai continué mon boulot comme je devais le faire, quoi. J'ai toujours dit aux copains, soyez intègres au niveau de votre travail, parce qu'on ne peut défendre que ce qui est défendable. Et puis, il fallait être très vigilant à ce niveau-là. Alors, j'ai encore travaillé un an. Et Philippe a travaillé avec moi et avec Annie. Donc, les deux engagés syndicalement bien, et puis Philippe. Et après un an, j'ai quand même donné ma démission. Parce que, bon, qu'on le veuille ou non, on en prend un coup. Hein, et puis le directeur a quand même eu la bonne idée de téléphoner ou d'écrire à la supérieure générale de la congrégation pour lui demander de dire à la sœur, n'est-ce pas, qui travaille à Lunéville, qu'elle se la boucle et qu'elle rentre dans les rangs. Bref, la CFDT a très bien réagi, et puis a écrit au directeur, à ses supérieurs hiérarchiques. Enfin bref, après un an, j'ai donné ma démission, Et j'ai chaque fois eu quelqu'un, voyez-vous, qui m'a aidé à rebondir. Quand je suis... Ben, on comprendra peut-être après. J'ai donc ripé alors à l'Institut médico-professionnel de Saint-Nicolas-de-Port, avec 120 jeunes, une soixantaine de salariés, d'éducateurs, et on m'a donné là un poste de chef cadre. J'étais donc éducatrice chef pour le secteur, pour le premier secteur, donc les plus amochés en quelque sorte, enfin le deuxième secteur aussi. Mais disons, on m'a mis au premier secteur parce qu'il y avait aussi encore un peu de scolarité là-dedans, et puis il aurait voulu que je devienne directrice d'une école interne. L'inspecteur qui est venu a dit « Ah, vous êtes une transfuge de l'éducation nationale. » Je lui ai laissé causer, je me suis causé, je cause toujours. Et j'ai bossé là-bas pendant 3 ans, avec une soixantaine d'éducateurs techniques. On a fait un boulot extraordinaire. Mais évidemment que l'action syndicale, à ce moment-là, elle a pris un coup. Je n'ai plus pu m'engager comme je le faisais avant. Mais n'empêche que ma manière de concevoir le travail et ma manière d'approche des éducateurs n'était pas celle d'un chef parvenu. J'avais une approche différente. Et on a fait un travail extraordinaire. J'étais l'intermédiaire en quelque sorte aussi. Pas en quelque sorte, en réalité, entre les éducateurs et le directeur qui souvent, ma foi, il allait les saquer et puis j'essayais de leur faire comprendre la difficulté du travail avec des handicapés mentaux, des autistes, des... Mon Dieu, le CADA, il était toujours couché par terre. Alors il me disait, Pierre me disait, mais comment voulez-vous, mademoiselle Bigné, qu'on avance de cette façon, les maçons, hein? Mais le gamin, c'était de l'Algérie par là, ben, quand il faisait chaud, il se couchait par terre et il attendait que le temps passe. Mais évidemment que pendant ça, le travail ne se faisait pas. Et le directeur, qu'ils appelaient le Toto, ils avaient comme ça un pseudonyme pour chacun. Alors, ils disaient, mais comment voulez-vous, le Toto, il veut tout le temps qu'on fasse du boulot, mais on n'y arrive donc pas avec, comment voulez-vous. Enfin bref. Donc j'étais là-bas pendant 3 ans, j'ai fait un boulot bien, je dirais, ensemble, en complémentarité. J'ai tout fait pour que le personnel arrive à avoir sa place,
juste, être reconnu. Juste à ce moment-là, quand tu te fais recruter à ce poste-là, et puis après, dans les années où t'as exercé ce métier-là, est-ce que les gens, le recruteur par exemple, ou les collègues avec qui tu bossais, ils étaient au courant, ou en tout cas tu leur avais communiqué ton engagement syndical et ton engagement un petit peu religieux comme ça, ou c'est quelque chose que tu taisais
et personnellement, que tu je n'en ai fait aucune, j'ai pas fait de publicité, pas de prosélytisme comme tu disais tout à l'heure, mais parmi les éducs, il y en avait un, Roland, celui qui tuait le coq, qui était donc le mari de Josiane CGT à Lunéville. Et donc, par le biais là, ça s'est su. Mais ça n'a posé aucune difficulté, aucune... J'étais là, j'étais mademoiselle Bigné.
Oui, voilà.
Point. Mademoiselle Bigné. Et puis, c'était vraiment... Écoutez, c'était génial. Autant au niveau de la direction... je la nomme maintenant premier, qu'au personnel de service, qu'au niveau des éducateurs, soit avec les meilleurs, jeunes, je n'avais pas de souci, aucun souci. Bon, il y en a bien un qui a essayé de me courtiser, mais il a compris aussi que ma foi, que ça valait pas trop le coup. Mais c'était comme ça. Et c'était pas que là, la congrégation m'a rattrapé. Fichtre non. La troisième année que j'étais là-bas, je reçois un courrier de la congrégation qui me sollicite, qui me propose, mais qui me sollicite. Enfin, on peut prendre le terme qu'on veut. Pour venir à Strasbourg, bien entendu, il fallait me rapatrier. parce que le directeur de la Fédération de Charité de Strasbourg recherchait une religieuse pour prendre la direction du foyer de jeunes 8 rue de l'Arc-en-Ciel, parce que l'ancienne directrice est amenée à prendre sa retraite. Je me suis dit, mince, c'est un foyer de jeunes travailleurs, travailleuses.
Attrapées par la patrouille.
Il n'y avait pas encore de garçons à l'époque, hein, c'était rien que des filles. J'en ai discuté avec un copain prêtre aussi, très engagé en monde ouvrier. J'ai dit, écoute Gilbert, regarde le courrier que je viens de recevoir. Alors Gilbert, il me dit, écoute, tu sais Marie-Madeleine, si nous on ne prend pas des postes de responsabilité, eh bien ma foi, pour nous ça va être foutu, hein. Je dis, ben oui, qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus qu'à y aller, quoi. Enfin, en réfléchissant, en discutant. J'ai téléphoné à une copine, sœur au travail, hein, avec laquelle on se retrouvait une fois par an pour une réflexion. Elle me dit, vas-y pour nous. Donc, vous voyez, intimement mêlé, le travail, l'engagement, mais c'est un tout. Et ma démarche, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et c'est comme ça que j'ai ripé à Strasbourg. Il y avait du boulot. Mon Dieu. Enfin, bref.
Et peut-être arriver dans la dernière partie de cet entretien, pourquoi tu as quitté la CFDT et adhéré à la CGT? Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben oui. C'est un autre volet. Mon cousin était ouvrier à la SOLAC, au pont roulant, et il cotisait dans la Starvekos, la caisse des, comment on dit en français,
d'assurance maladie,
funérailles,
ouais.
C'était pour se créer un petit pactole pour le jour du décès, de l'enterrement, pour couvrir les frais d'enterrement. Et puis là-bas, je savais qu'il y avait FO et qu'il y avait la CGT. Jean-Paul est décédé en 2017 et c'est moi qui ai été amenée à prendre en compte toute la situation, de faire le nécessaire pour boucler ce qui est à boucler en cas de décès. Alors cette caisse de décès, je dis, mais je n'ai pas d'éléments, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Enfin, je passe les détails, hein. Alors je me suis dit, FO, mais je ne vais pas m'adresser à FO, c'est hors de question. Mais j'ai les copains de la CGT que je voyais aussi à la CNL.
La Confédération nationale du logement, oui. Association de locataires.
Oui, tout à fait. Et donc, je me suis adressée à la CGT. C'était Marcel Wolff. Écoute, je n'ai pas pris le nom. Et puis donc, on a fait un courrier. Et on a chiadé le courrier, hein, pour à Solac, quoi. Et alors, je me suis dit, écoute, tu demandes un service à la CGT, maintenant, c'est le moment, tu vas adhérer à la CGT et ça te permettra de rejoindre un collectif. Et voilà, c'est comme ça. D'accord. Que je suis donc arrivée à la CGT. C'est une démarche qui me paraissait tout à fait normale, juste, disons juste. Voilà. Et donc, depuis... tout à l'heure, on avait le carnet des timbres en main. Je cotise depuis, c'est la cinquième année, je crois. Et puis, je rejoins.
Toute jeune syndiquée. Ouais.
Voilà, à 80 ans. Une jeune fille de 80 ans. Voilà.
C'est ça.
Ben oui.
Eh ben, Marie-Madeleine, merci beaucoup pour cet entretien. C'est cette tranche de vie extrêmement intéressante et riche, en fait, hein. Et on en arrête là. Fred, merci beaucoup.
Oui, merci. Merci. Et donc, n'oubliez pas, si vous voulez approfondir le sujet, qu'il y a aussi un épisode d'un entretien avec Albert Mann, notre camarade prêtre ouvrier. Merci. Ciao, ciao.
Merci à tous.